Bonjour Nicolas Martin.
Bonjour.
La revue de presse ce matin, si tu m'aimes, t'en vas pas.
Oui, t'en vas pas au bout de la nuit. C'est une sorte de psychodrame de couple qui se joue ce matin dans les pages de vos journaux comme un lendemain de rupture, passé le choc et la violence d'une séparation brutale. On ressasse, on examine, on décortique ce qui a conduit à cet état des choses, à ce divorce à l'anglaise, parce que c'est bien d'un divorce dont il s'agit, si l'on en croit plusieurs éditorialistes ce matin. Même après ce désolant Brexit, le Royaume-Uni sera toujours l'un des principaux pays d'Europe et il serait sage de ne pas l'oublier en succombant aux passions vengeresses d'un divorce pour faute, écrit Jean-Dominique Merchet dans l'Opinion. Cette tentation existe à Paris ou à Bruxelles où l'on rêve de rompre au plus vite les amarres avec Londres. Il convient d'y résister. Alexis Brézet ne dit pas autre chose dans son édito du Figaro. Messieurs les Anglais, tirez-vous sans traîner au lendemain du divorce voulu par une majorité du peuple britannique. Il semblerait que les dirigeants européens, France en tête, n'aient rien de plus urgent que de chasser du domicile commun ces pelés, ces galeux par qui le scandale arrive. Outre qu'elle est singulièrement mesquine, cette logique punitive qui se voudrait dissuasive à l'égard de tous ceux qui, à travers l'Union, rêvent d'imiter les Anglais, n'est évidemment pas à la hauteur de l'événement. La crise gravissime que traverse l'Europe ne se résoudra pas dans les invectives ou les représailles. Et c'est également l'humeur d'Alain Raymond dans son billet dans La Croix. « Soyons francs, écrit-il, notre première réaction a été de dire « Vous voulez nous quitter ? Eh bien, faites-le, débrouillez-vous tout seul, bon débarras et ne venez pas pleurer après. » Sauf qu'en réalité, ça nous fait un sacré pincement au cœur. C'est peut-être idiot de le dire au moment du divorce, mais il faut bien que quelqu'un leur dise « On vous aime les rosbif ? » ?»« Oui, parfaitement, on vous aime, vous allez nous manquer. » Et pour Daniel Schneiderman dans Libération, il ne s'agit pas seulement d'un divorce avec la Grande-Bretagne, c'est un divorce beaucoup plus large et plus douloureux que cela. Divorce, c'est le mot qui vient tout de suite tant on perçoit que cette apocalypse dépeinte par BFM n'est pas seulement politique et financière, mais aussi familiale, affective et avec tout ce qu'elle comporte de joie malsaine et de reproches rétrospectifs. Non seulement un divorce, mais un divorce qui se passe mal. On se sépare dans la douleur et les cris, au point qu'on est presque surpris d'entendre Hollande assurer que nous continuerons de travailler avec ce grand pays ami qui nous adresse ce doigt d'honneur si éloquent. Or, pour Daniel Schneiderman, sous ce divorce immédiatement lisible s'en cachent peut-être quelques autres, et notamment un divorce avec le suffrage universel. Le Brexit ne peut pas gagner en 2016, Marine Le Pen ne pourra pas l'emporter en 2017, cela ne peut pas arriver, il y aura toujours un plafond de verre, un garde-fou, quelque chose. Le suffrage universel ne peut pas commettre ces bêtises-là jamais, papa ne peut pas faire de mal à maman, normalement, jusqu'à ce que l'histoire nous tombe dessus.
Vincent Descombes, une réaction par rapport à ça, par rapport à ce commentaire de Daniel Schneiderman sur l'idée selon laquelle il y aurait quand même une raison dans l'histoire, que tout ceci, donc malgré tout, ne pouvait pas arriver, qu'on ne s'y attendait pas.
Mais comment on ne s'y attendait pas J'ai entendu partout, oui, ah, c'est inouï, on ne s'y attendait pas. Mais ça, c'est comme le référendum de 2005 en France, n'est-ce pas, on ne s'y attendait pas. En réalité, on s'y attendait, mais il fallait créer l'idée que c'est des choses impossibles. Ce sont des problèmes très graves, et donc c'est avant qu'il faut trouver les mots qui empêchent justement... n'est-ce pas, les plafonds de verre sont destinés à dépasser, donc c'est avant qu'il faut trouver les mots et les raisons. N'est-ce pas, c'est très frappant. Quelle est la réaction après l'événement là? Tout le monde dit « Ah, c'est plus possible, il faut changer le logiciel », et puis après on réentend les mêmes histoires. Donc, s'il n'y a pas de changement, il y aura le plafond de verre, c'est certain, il est destiné à dépasser.
Nicolas Martin, avant le divorce, on le sait, il y a déjà eu de grosses engueulades.
Oui, vous venez de le dire à l'instant, et comme le rappelle Alexis Brézet dans le Figaro, un peuple a dit non, mais avant les Anglais, il y a eu les Danois en 92 et en 2000, et les Irlandais en 2001 et en 2008, et les Suédois en 2003, et les Français en 2005, et les Hollandais en 2005 aussi, et les Grecs en 2015, au point qu'on se demande après tant de rebuffades, comment les dirigeants européens ont pu être surpris quand l'impossible est arrivé. Et c'est le même constat qui conduit Bernard Stéphan dans La Montagne à se poser la question suivante. Y aura-t-il un second référendum ? C'est peu probable, même si l'histoire récente démontre l'inverse. En 1992, le Danemark rejette le traité de Maastricht, il l'adopte en 1993. En 2011, l'Irlande dit non au traité de Nice. En 2001, pardon, elle l'approuve en 2002. En 2008, l'Irlande désapprouve le traité de Lisbonne. Elle dit oui un an plus tard. Il est commun de considérer que ceux qui ont dit non ont voulu adresser un avertissement. On voit mal comment, sauf à faire dans la demi-mesure inefficace, on n'irait pas vers un nouveau traité pour refonder l'Union et comment faire valider un texte autrement que par référendum. Sauf à se couper à jamais de l'Europe du peuple. Et cette notion de refondation, elle traverse, vous vous en doutez, une large partie de la presse du jour. Ainsi, Patrick Le Yarrick, dans son édito dans l'Humanité, constate qu'après les rejets exprimés dans les référendums grecs, néerlandais et français, le vote anglais signifie que la coupe est pleine. Il bat en brèche la thèse selon laquelle l'intégration européenne serait irréversible. La refondation progressiste et écologique de la construction européenne à partir des aspirations populaires et démocratiques est donc posée avec force. L'élaboration d'un nouveau projet européen coopératif et solidaire autour d'une union de nations et de peuples associés, souverains et libres, doit devenir une exigence incontournable, alors que tous ceux qui conduisent l'Europe au bord du précipice se contorsionnent pour que rien ne change. Et Dominique Moïsi dans Les Échos tire une leçon à peu près similaire. La Grande-Bretagne est moins que jamais une île, elle devient l'avant-garde, le porte-parole d'un ensemble qui, de l'Europe aux États-Unis en passant par les Philippines, dit non en vrac et de manière syncrétique à la mondialisation et à ses élites, à la croissance des inégalités et à l'existence de l'autre à ses côtés, comme une dimension incontournable de la réalité quotidienne. Il ne s'agit pas aujourd'hui de punir la Grande-Bretagne pour ce qu'elle a eu l'audace de faire, dire non à l'Europe. Il s'agit bien au contraire, pour les dirigeants européens, de se livrer à un examen de conscience nécessaire. Pourquoi avons-nous tous collectivement perdu la confiance de nos peuples respectifs et que pouvons-nous faire individuellement au niveau de nos nations respectives et collectivement au niveau de l'Europe pour regagner cette confiance? Le 23 juin 2016 ne restera pas dans l'histoire comme le jour de l'indépendance de la Grande-Bretagne, mais il peut rester comme le jour où l'Europe, sous le choc du révélateur britannique, s'est enfin réveillée, n'ayant plus d'autre choix que celui de se réinventer elle-même.
Jacques Rancière, je ne vais pas vous demander de prophétie, mais suite à ce que vient de dire Nicolas Martin, est-ce que pour vous, l'Europe peut se réinventer ?
Enfin, je crois pas. Enfin, c'est-à-dire malgré tout, à chaque fois comme ça qu'on a ce genre un peu de tourmente, un peu dans le verre d'eau gouvernemental, on dit oh là là, ou bien on dit les gens sont des crétins, on va leur expliquer la prochaine fois, ils voteront bien quoi. Ou bien on dit faut tout refonder, faut tout recommencer à chaque fois qu'on voit comme ça le Front National monter un peu, etc. Les gens disent bah, vraiment, c'est la preuve que la France veut qu'on fasse la politique différemment, on va la faire différemment, et puis ils la font exactement pareil. Donc je pense pas, si vous voulez, que vraiment que les bureaucraties qui nous gouvernent soient réformables. C'est ça le problème quoi. Alors bon, finalement la seule question, c'est quel type de pouvoir, je dirais non bureaucratique, de pouvoir démocratique sont possibles, sont constituables aujourd'hui. Bon,
il y aura. Et alors, quelle réponse apporteriez-vous à cette question?
Moi, j'ai pas de réponse personnelle, mais je pense que fondamentalement, on sera gouverné par des bureaucraties non réformables et incapables de prévoir leurs effets. Aussi longtemps, effectivement, qu'il n'y aura pas des contre-pouvoirs démocratiques forts. Mais alors, de donner des recettes. Moi, j'ai jamais donné de recettes à personne, mais fondamentalement, si vous voulez, le discours de « on va se refonder », enfin, à chaque fois, nos gouvernants disent « on va tout changer, on va tout refonder », mais il y a vraiment des choses qui ne sont pas réformables, il faut quand même le savoir, vous ne pas raconter des blagues.
Vincent Descombes, et vous partagez ce pessimisme ?
Le diagnostic, oui, pour qu'il y ait réforme, la réforme en soi, ce n'est pas impossible, n'est-ce pas ? Il n'y a rien logiquement qui l'empêche, mais il faudrait que les gouvernants, et en particulier à la gauche, là, pose les problèmes de politique extérieure, de politique européenne, n'est-ce pas, au lieu de juger que ce sont des questions trop techniques, trop difficiles pour les citoyens. Il faut que ces questions soient posées.